France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Ça s'appelle « C'est tout un art, ce que la culture fait à la vie ». Et ce sont des histoires qui ont été racontées sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio le 9 avril 2026 et que je vous propose d'écouter aujourd'hui et demain dans Les Pieds sur Terre. Pour cette 9e édition des Pieds sur Terre sur scène, avec Delphine Saltel, on est parti d'une étude conduite par la Fondation Art Explora et l'IFOP qui nous a étonnés. Elle parle des pratiques culturelles, comment les Français considèrent la culture, quelle place elle a dans notre vie. C'est vrai qu'au pied sur terre, on ne reçoit jamais d'artistes pour parler de leur travail. Mais par contre, la façon dont l'art et la vie s'entremêlent, c'est notre sujet. Ce que la culture fait à la vie, ça nous parle. On a fait une série qu'on avait appelée « Lire, c'est vivre », une autre sur les chansons, ou quelques épisodes dans les musées, comme celui justement de Delphine Saltel, qui était posté au Louvre devant le radeau de la Méduse. Alors, ce que dit l'étude, c'est que nous sommes 86% à considérer la culture comme essentielle à notre vie, bien devant le sport, par exemple, ou le shopping. Et en même temps, que la fréquentation des lieux culturels est bel et bien en train de s'effondrer. Je ne vous parle même pas de l'opéra, parce que ça donnerait raison à Timothée Chalamet, ni du ballet classique, qui en vérité, avec l'opéra, sont officiellement les deux arts dont nous nous sentons le plus éloignés. Mais en gros, les Français se déplacent de moins en moins au cinéma, au théâtre, au concert, et il y a même 20% d'entre nous qui n'ont fait aucune sortie culturelle au cours des 12 derniers mois. Mais là où ça devient vraiment surprenant, c'est que dans ce même groupe qui n'a fait aucune sortie culturelle, eh bien les trois quarts des personnes interrogées continuent à dire que la culture est essentielle à leur qualité de vie. Donc on est dans un pays qui dit globalement « la culture c'est fondamental, mais pas ce soir ». Avec Delphine Saltel, on a donc essayé de creuser ce paradoxe et de vous raconter notre relation subjective, existentielle, sociale, familiale à la culture. Comment expliquer ce contraste? Est-ce que c'est le manque d'argent, d'accessibilité? Est-ce que l'acquisition d'un air fryer nous rend plus heureux qu'un abonnement au théâtre, mais qu'on n'ose pas l'avouer? Aujourd'hui et demain, on se demande si la poésie peut nous sauver la vie et s'il est vraiment nécessaire de parler de cinéma, plein de questions et plein d'histoires très différentes qui partent un peu dans tous les sens pour aborder une thématique qu'on n'épuisera jamais. Et on commence avec un jeune homme que les fidèles des Pieds sur Terre connaissent sans doute, Olivier Grondeau.
Un matin d'octobre 2022, à Shiraz, dans le sud de l'Iran, quatre hommes sont arrivés dans l'auberge de jeunesse où je séjournais. Ils m'ont menotté et conduit en détention. Alors que j'étais un simple voyageur, j'ai été accusé d'espionnage et d'incitation à la révolte. C'était environ trois semaines après le début des manifestations qui ont suivi la mort de Jina Mahsa Amini, l'étudiante tabassée pour un voile mal porté. J'ai passé 2 ans et 5 mois dans les geôles iraniennes, dans des conditions parfois très dures. J'ai fait 2 grèves de la faim, je suis descendu très bas, j'ai parfois perdu complètement espoir. Mais ce soir, je vais vous parler de ce qui m'a fait tenir, du lieu, de l'endroit où j'ai puisé ma force. La première chose qui m'a sauvé, c'est la langue, le fait que je parlais un tout petit peu persan. Dans la cellule de garde à vue où j'ai été transféré au début, 2 mètres sur 6, éclairé 24 heures sur 24, sans sortie, ni visite, c'était interdit de parler. Quand je suis entré, il y avait un autre détenu. Je lui ai quand même dit bonjour. Et avec mon persan d'autostoppeur, j'ai ajouté « Ils m'ont dit de ne pas parler, mais je m'en bats les couilles. Betor, mam. » Il était interloqué. Ça m'a fait du bien. C'était comme lui dire « Regarde, on va passer un bon moment. » Par la suite, ça a été une des sources principales de rigolade de mes co-détenus. Il m'apprenait une phrase et il me disait « Quand un tel arrive, vas-y, dis-lui ça. » Et la phrase voulait dire quelque chose comme « Ça t'écorcherait d'arrêter de dire des conneries. » Pour ceux qui comprennent ce soir, Halamimiri kos nagi. Alors le gars se choquait, et puis il comprenait que c'était un coup des autres. Tout le monde riait, c'était le théâtre. Je connaissais également quelques vers en persan, c'était ma petite cartouche, mon capital sympathie. Je les avais déjà sortis à un des premiers camionneurs qui m'avait pris en stop. Et tout d'un coup, il s'était mis à scander tout un poème, des dizaines de vers. Voilà, j'ai cru qu'on allait avoir un accident tellement il y mettait du cœur. Mais en Iran, c'est comme ça. La poésie fait partie de la vie. Même les jeunes qui font mine de trouver ça vieillot, ringard, au fond, ils connaissent quand même tous des poèmes. Et c'était mon trésor. Il y avait en particulier deux vers du poète Hafez qui prenaient un drôle de sens dans ce contexte. Garche manzel bas khatarnak ast va maqsad bas ba'id hich rahi nist kan ra nist payan gham makhor. Même si l'abri de ta nuit est peu sûr et ton but encore lointain, sache qu'il n'existe pas de chemin sans terme, ne sois pas triste. Il y avait aussi un vers de Rumi, un grand poète mystique qui a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. Il est même tatoué ici sur mon crâne. J'étais seul avec le roi du monde et j'ai ri comme une rose. À l'isolement, je les ai récités à mes camarades. J'ai connu avec ces trois vers des moments qui me semblaient des victoires sur les bourreaux. Qu'il y ait des choses qui leur échappent, ça devenait primordial. C'est comme quand je cachais des sachets de mayonnaise. C'était une manière de subvertir l'expérience, de résister. J'avais que trois vers, toujours les mêmes. Mais simplement en pensant à chaque mot, j'étais transporté par la beauté. Je sortais de moi-même, de la cellule. Et quand je me rendais compte que mon plaisir était intact et puissant, j'étais là en mode, tu vois, enquêteur, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux contre moi? Et t'en sauras jamais rien. Au bout d'un mois, j'ai décidé d'écrire le vers de Rumi sur la porte de la cellule. Évidemment, on n'avait pas de papier ni de stylo. Alors, j'ai utilisé un os de poulet que j'avais gardé pour ça. Je m'autorisais une lettre par jour. J'économisais. Ça marquait le temps et ma journée. Chun gol hametan khandam bosho ejahan tanha. J'ai fait les six premières lettres. J'ai fait le tch, le ou, le ne, le g, le l. Mais juste après le h, j'ai été transféré de cellule. Une fois là-bas, je suis passé à la vitesse supérieure. J'ai choisi un poème entier en français qui s'appelle El desdit shadow de Gérard de Nerval. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. C'est un poème que j'avais appris quand je travaillais aux Galeries Lafayette, sur un petit stand de souvenirs. Fallait rester debout, attentif aux éventuels clients, et tout ce que j'avais trouvé pour ne pas avoir la sensation de perdre mon temps, c'était de faire des petites antisèches avec des textes. Et je les apprenais par cœur. Dans ma nouvelle cellule, je me suis accordé un mot par jour. Royal. Une ligne par jour, ça aurait été trop. Je me suis dit, oula, non, ça va finir trop vite. Mais un mot par jour, c'était bien. Cette fois, les camarades m'avaient expliqué que pour écrire, on pouvait aussi utiliser le couvercle des yaourts, l'opercule en aluminium. On le pliait en 8 et ça faisait des petites traces toutes légères. Alors comme ça marquait pas bien sur la porte, j'ai écrit sur le radiateur. C'était ma manière d'avoir un truc super cool à faire de ma journée. Je savais qu'à un moment, j'allais écrire le mot. Si c'était mon 52e jour de détention, c'était le 52e mot du poème. Et chaque jour, je mettais celui d'après. Puis il y avait des jours où c'était juste un article, un peu triste. C'était juste « le » ou même « l'apostrophe ». Je suis allé jusqu'au 9e vers, suis-je amour ou Phébus? Et puis, je ne saurais jamais pourquoi, au bout de 72 jours, ils m'ont sorti de garde à vue et ils m'ont envoyé en prison. La prison, c'est plus libre et c'est plus dur aussi. Parce que c'est là que je comprends que je suis un otage, quelqu'un qu'on veut monnayer. J'attends mon jugement pendant plus d'un an. Je suis condamné à 5 ans de prison. Je prends aussi conscience de la répression qui sévit dehors. Je vois des manifestants enfermés avec moi partir dans le couloir de la mort. Dans ma cellule, il y a aussi Vahid. Lui, il est là depuis longtemps. C'est un homme respecté, assez savant. Et donc, c'est lui qui reçoit parfois des autorisations pour aller emprunter des livres à la bibliothèque. Et ça me fait complètement fantasmer un livre. Je lui parle de mon tatouage, que j'ai soigneusement caché jusque-là, et petit à petit, on devient potes. Alors je lui demande s'il veut bien m'expliquer des poèmes. Et à partir de là, chaque soir, à 21h, on s'assied à la petite table de la salle commune. Il m'a trouvé un vieux dictionnaire persan-français qui date de la dictature du Shah. Et ensemble, on tire au hasard un poème complet de Rumi et il me l'explique. Et pendant tout ce temps, je note de façon très scolaire tous les mots de vocabulaire que j'apprends sur un vrai carnet cette fois. Alors, c'était des mots pas très utiles, des mots comme l'aiguière de l'aube, le dé du firmament, la nef de brume, que je marque à côté des mots d'argot que j'apprends par ailleurs, comme « fils de pute » ou « je t'ai bien défoncé ». Les autres copains de la chambre me vannent pas mal. Ils me disent « t'en as pas marre d'apprendre des trucs qui servent à rien ?» Ils me disent que si je m'intéresse à la poésie, je ferais mieux de retenir les paroles de cette chanson qu'ils écoutent en boucle et qui a l'air de beaucoup les toucher. Elle s'appelle « Baroye » et ça veut dire « pour ». C'est une liste de dédicaces, d'adresses, de revendications. Pour ma sœur, pour ta sœur, pour nos sœurs, pour les enfants qui fouillent les poubelles, pour l'environnement détruit, pour les étudiantes, pour l'avenir, pour une vie normale. Et surtout, pour les femmes, la vie et la liberté. Sauf que moi, je ne sais même pas que le mouvement de contestation a pris ce nom-là et que cette chanson est devenue l'hymne de la jeunesse. Et je ne comprends pas l'émotion qu'ils ont quand arrive le couplet « pour les étudiantes et pour l'avenir ». Je suis resté en détention 887 jours, et puis j'ai été libéré. Aujourd'hui, avec Vahid, on continue à interpréter des poèmes, sur WhatsApp, cette fois. Il m'envoie des vocaux, et c'est notre façon de garder le contact. Et puis à mon retour, j'ai découvert le clip de Baroye. Et là, j'ai pleuré. Et jusque-là, je vous jure, dans ma vie d'adulte, j'avais jamais pu verser une larme. Et maintenant, tu me mets la vidéo de Baroye, je pleure. Je la remets, je pleure. Je la connais pas encore par cœur. Je l'économise. Je devrais peut-être la recopier sur un carnet. Un mot par jour. Merci.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه. برای
J'ai été recruté à la mairie d'Orange au début des années 80 à l'occasion de la création d'un bibliobus. L'idée était d'aller au-devant des gens éloignés du centre-ville avec un bus rempli de livres pour tous les âges. On allait dans les écoles, des maisons de retraite, des centres sociaux. Je peux dire que c'est vraiment là que j'ai découvert ma vocation. Conquérir des publics, capter des gens qui ne fréquentaient pas spontanément la bibliothèque. En 1985, lors du départ en retraite du responsable de la bibliothèque, la mairie m'a proposé d'en prendre la direction. En 1995, Je dirigeais donc la bibliothèque depuis 10 ans. Lors des élections municipales, Jacques Bompard, un des membres fondateurs du Front National, a été élu avec 81 voix d'avance. Personne ne s'y attendait. J'ai très vite compris que ça serait compliqué. D'abord, pendant 3 mois, plus de budget, plus aucun achat, plus aucune animation possible. Puis, au bout de 3 mois, il m'a été demandé de fournir à la mairie la liste détaillée des livres que je souhaitais acheter pour validation de mes propositions. Très vite, j'ai vu revenir les listes avec des titres rayés, à la main, parfois une explication griffonnée, mais parfois rien, comme si c'était trop évident. Par exemple, une biographie de Montaigne, par Jean Lacouture, sans doute rayée parce que ce dernier était un proche de Mitterrand. Ou la nouvelle collection Le Poulpe, grand succès de la littérature policière de l'époque, probablement parce qu'il y avait des auteurs ouvertement de gauche, comme Didier Denynx. Ou encore un roman où il était question d'homosexualité au motif d'atteinte aux bonnes mœurs. Des ouvrages sur le racisme ou le rap, également rayés des listes. En littérature jeunesse, même pratique. Des contes régionaux d'Afrique, d'Amérique du Sud, de Chine, d'Haïti, au motif de multiculturalisme. Un livre avec un enfant noir et un enfant blanc sur la couverture, biffé. En fait, un bon tiers des achats était refusé. Au même moment, le directeur de communication de la mairie vient à la bibliothèque presque tous les jours. Il arpente les rayonnages, scrute, jauge, soupèse, évalue les collections, vérifie que les directives sont suivies. C'est quelqu'un qui vient de rejoindre le Front National. Auparavant, membre des mouvements d'extrême droite, Troisième Voie, puis Nouvelle Résistance, c'est un nationaliste révolutionnaire, néo-fasciste, rien moins. Et je comprends qu'il est l'artisan de ce qu'on ne tardera pas à appeler le nécessaire rééquilibrage des collections. La bibliothèque a des fonds déséquilibrés, puisqu'elle ne fait pas de place à des publications d'extrême droite. C'est alors qu'arrivent des propositions d'acquisition ainsi que des dons de livres. Je les trouve dans la bannette du courrier, venant directement du cabinet du maire, avec demande d'intégration aux collections de la bibliothèque. On me dit que ça coûte moins cher recevoir des dons que d'acheter des livres, mais pour moi c'est inacceptable. Je note en outre que ce sont des livres qui ne sont pas enregistrés au dépôt légal, une sorte de littérature grise, majoritairement à compte d'auteur. Et bien sûr, beaucoup d'ouvrages qui revisitent le nazisme ou la guerre d'Algérie, toutes les thématiques de l'extrême droite y sont. Je fais tout de suite part de mes réserves. Le directeur de la communication me rétorque que je ne peux pas refuser des livres qui ne sont pas interdits. Sauf que ces livres ou publications n'ont aucun risque d'être interdits, puisque nombre d'entre eux ne sont pas recensés au dépôt légal. Il y a par exemple des livres signés Julius Evola, un Italien qui a cherché à rapprocher le fascisme du national-socialisme et terminer la guerre en travaillant dans les services des SS. D'Henri Coston, un pamphlétaire antisémite. D'Emmanuel Ratier, connu pour son livre consacré au complot judéo-maçonnique. Ou encore un titre comme « Faut-il brûler les Arabes de France ?» certes acquis après mon départ. Et surtout le livre d'Otoran, La cour de Lucifer. Vous l'ignorez sans doute, mais quand Otoran publie ce livre en 1933, il est déjà sympathisant nazi. Il deviendra ensuite le protégé d'Himmler, qui rendra d'ailleurs la lecture de ce livre obligatoire pour les cadres du parti nazi. La cour de Lucifer lui fournit une sorte de généalogie héroïque, des reliques prestigieuses, un passé arien, pour nourrir l'identité SS. Le journal Le Monde confirmera l'introduction de tous ces auteurs. C'est donc comme ça que la mairie d'Orange entend rééquilibrer les collections de la bibliothèque municipale. Systématiquement, je m'oppose à ce que ces ouvrages entrent dans les collections de la bibliothèque. J'essaie d'expliquer qu'ils ne répondent pas aux critères en usage pour acquérir un livre, qu'il s'agit d'ouvrages clairement révisionnistes ou qui incitent à la violence. Je ne dois exercer, me dit-on, aucune censure. L'idéologie nationaliste doit trouver sa place dans nos fonds. C'est une question de diversité des courants de pensée. En fait, la bibliothèque est instrumentalisée pour devenir une vitrine de parti, ce qui en dit long sur leur ignorance de ce qu'est une bibliothèque de lecture publique dans une ville. La bibliothèque, c'est souvent la principale voie d'accès à la culture. C'est un instrument au service de la population qui répond à des besoins divers. C'est également un lieu de vie, de confrontation des idées, de mixité sociale, de mélange des générations. En fait, c'est un service public qui participe de l'idée même de démocratie. Mais ça, c'est le discours de la professionnelle que je suis, alors qu'une bibliothèque, dans leur esprit, c'est juste un guichet de pré-retour de documents. D'ailleurs, nul besoin de professionnels pour ça. C'est pour moi un choc, pour ne pas dire plus, qu'on puisse m'accuser d'exercer une censure et d'une part une façon d'inverser les valeurs, d'autre part une complète méconnaissance des publics de nos bibliothèques. Qu'on mette à disposition des lecteurs des livres qui répondent à leurs besoins, c'est une évidence. Mais les choix des professionnels doivent reposer sur une forme de consensus social. Sinon, la confiance est rompue, pour ne pas dire trahie. Et je refuse d'être instrumentalisée de la sorte. Je saisis alors le ministère de la Culture, qui a autorité pour vérifier le bon fonctionnement des bibliothèques municipales. Car il y a là pour moi un dysfonctionnement majeur. Le ministère réalise une inspection et le ministre lui-même pratique inédite, fait publier des extraits du rapport d'inspection dans la presse nationale. Désormais, tout le monde est au courant de ce qui se passe à Orange. Pour ma part, j'ai cherché du travail ailleurs et demandé ma mutation. Se soumettre ou se démettre, telle était l'injonction du maire. J'ai pris la ville d'Orange en horreur, même si j'ai continué à y habiter. Je n'allais plus en centre-ville, me sentais comme en rupture de banc avec cette ville. Je suis devenue directrice de la bibliothèque départementale de Près, au conseil départemental de Vaucluse, en 1996. Une autre manière d'œuvrer pour le développement de la lecture publique, à l'échelle d'un département et non plus d'une ville. Et ça, pendant près de 20 ans. Autant dire que si à Orange, j'ai échoué à faire vivre une bibliothèque digne de ce nom, je me suis en quelque sorte vengée. J'en ai fait construire plein, à travers tout le département. Une bonne vingtaine, au rayonnement desquels je pense avoir contribué. C'est mon rééquilibrage à moi. Merci de m'avoir écouté.
Le 3 mai 2014, je tombe sur un article dans le journal Le Monde intitulé « Un Rembrandt dans le placard ». Il raconte l'histoire d'un homme qui aurait vécu pendant 15 ans avec une toile de Rembrandt cachée dans un placard chez lui, sans que personne, ni sa femme ni ses enfants, ne soient au courant. Une toile qu'il aurait volée au musée de Draguignan et qu'il a décidé de restituer. Il se trouve que j'ai passé 5 ans à travailler sur Rembrandt. J'ai écrit un livre, puis le scénario d'un long-métrage, Rembrandt, que mon mari Charles Maton a réalisé. Alors un homme qui aime suffisamment ce peintre pour voler un de ses tableaux dans un musée, c'est sûr que ça m'a intriguée. Après une petite enquête, je réussis à trouver ses coordonnées et je le contacte. Il a vu le film, il a lu mon livre, il se sent en confiance. Il s'ensuit une amitié qui a duré plus de 2 ans. En réalité, son histoire était encore plus étonnante que ce que je croyais. Ça commence un jour de match de foot. Patrick a 13 ans. Ce jour-là, il est venu jouer contre Draguignan avec son équipe de Saint-Raphaël. C'est sa mère qui l'accompagne. Après le match, elle profite de ce moment un peu apaisé pour l'emmener au musée municipal à côté du stade. C'est la première fois que Patrick entre dans un musée. Il parcourt les salles et puis sa mère lui montre un tableau, l'enfant à la bulle de savon. Et elle lui dit « Tu ne trouves pas qu'il te ressemble ?» Patrick s'approche, il regarde. Il voit ce jeune garçon coiffé d'un large béret qui effectivement lui ressemble. Il est déguisé en petit adulte hollandais du XVIIe siècle. Il tient sur sa paume ouverte une grosse bulle de savon prête à éclater. Il nous regarde, nous les spectateurs, dans les yeux. Patrick reste un long moment devant le tableau. Il se reconnaît dans cet enfant, il est fasciné. Au début de notre rencontre, Patrick me décrit sa famille comme idéale. Mais au fil de nos conversations, je comprends que son père est un homme violent, despotique et alcoolique. Quand Patrick a 7 ans, il le menace d'égorgement avec un couteau de combat. Quand il en a 9, il détruit ses jouets à la hache. Ces traumatismes développent chez Patrick un besoin vital de s'isoler dans des bulles, souvent dans la niche du chien. À 17 ans, Patrick doit se rendre à Draguignan pour une formalité administrative. Il retourne au musée. Il ne peut résister à l'envie de revoir le tableau, celui qu'il appelle l'enfant. Cette fois, Patrick est submergé par une extase physique. Il éprouve ce qu'on appelle un syndrome de Stendhal, un trouble physique suscité par la beauté d'une œuvre. Il suffoque, il est pris de vertige, il a les larmes aux yeux. Lui qui n'a pas fait d'études commence à se documenter sur Rembrandt. Il va dans les bibliothèques, il se passionne pour la peinture du XVIIe hollandais. Puis sa vie dérape brièvement. À la suite d'une rixe, il fait 10 mois de préventive à la maison d'arrêt de Draguignan. Mais même là, le tableau continue de le hanter. Libéré, il retourne au musée. Il a 25 ans. La relation secrète qu'il vit avec cette peinture s'est transformée en un désir ardent de la posséder. Et puis Patrick trouve le tableau mal sécurisé. Le voler, ce serait aussi le sauver. Patrick travaille alors comme technicien dans une société d'alarme. Au début de l'été, il retourne au musée pour étudier le dispositif de sécurité et concevoir son plan. Ce sera dans la nuit du 13 au 14 juillet 1999, pendant le défilé militaire à Draguignan. Patrick a appelé le syndicat d'initiative. Il sait à quelle heure les chars défileront en même temps que les hélicoptères survoleront la ville. Dans ce vacarme, personne n'entendra l'alarme. Le matin venu, il commence par teindre ses cheveux en blond. La veille, il a acheté des chaussures de 2 pointures plus grandes pour égarer les futurs enquêteurs. À l'arrière du musée, il sectionne les câbles de l'alarme extérieure. À 15h10, il entre par la porte comme tout visiteur. Très vite, il va se cacher dans une armoire hollandaise qu'il a repérée en bas de l'escalier. C'est là qu'il va rester assis, recroquevillé dans le noir, pendant 6 heures. Cette fois, la triste habitude qu'il a eue de s'enfermer lui est d'un grand secours. Il a même emporté une bouteille d'eau vide comme urinoir de fortune. Vers 21h10, le directeur du musée quitte enfin les lieux. Patrick sort de sa cachette, débloque une grille métallique et brise une vitre blindée avec son marteau. Il attend l'heure des hélicoptères. Puis il décroche le Rembrandt en tirant brusquement sur les chaînes. Le vacarme extérieur couvre en effet l'alarme. Patrick cache la toile dans un sac et ressort calmement par la porte arrière du musée. Sur le trajet du retour, il ressent une sorte d'extase. Arrivé chez lui, il déballe le tableau. Il est le roi du monde. Il se prend en photo avec l'enfant à l'aide d'un polaroïd et d'un retardateur. Un selfie. Patrick protège ensuite le tableau dans du papier journal, dans du papier bulle, avec une couverture chauffante, et le range au fond d'un placard. Mais chaque jour, il le sort pour laisser respirer cette œuvre vivante et pour lui parler. Entre-temps, il s'est marié avec Christelle. Pour elle, le paquet caché dans le placard est un portrait du père de Patrick, peint par la mère, que personne ne veut voir. L'inquiétude commence à s'installer après un cambriolage. Heureusement, les voleurs n'ont pas vu la penderie où le rembrandt est dissimulé. Puis le couple va souvent déménager, car Patrick s'inquiète tour à tour dans chaque maison des termites, de l'humidité, des insectes, des fuites, des incendies, des regards du voisinage. Il limite ses déplacements pour ne pas laisser le tableau tout seul. L'enfant cesse d'être une présence adorée, dont il est le gardien responsable. Il devient une source d'angoisse. Un jour, un hélicoptère survole son jardin. Persuadé d'être démasqué, Patrick lève les bras, prêt à se constituer prisonnier. Les pilotes lui font alors de grands signes amicaux. Ce sont des agents de l'EDF qui vérifiaient les lignes électriques. C'est un signe de plus. Patrick doit rendre le tableau. Mais il ne choisit pas la méthode la plus simple. Sans le savoir, il livre l'enfant à deux escrocs qui se font rapidement arrêter. La restitution du tableau étant une de la presse locale, Patrick décide alors de passer aux aveux. Mais il y a prescription, et les gendarmes le renvoient gentiment chez lui. Et c'est là que paraît l'article du Monde et que je décide d'écrire cette histoire. Je suis évidemment allée au musée de Draguignan pour refaire son parcours et voir le tableau. Les responsables ont même accepté que je me glisse dans la fameuse armoire où il est resté durant ces 6 heures. À la parution du livre, je suis revenue chez Patrick pour lui en remettre un exemplaire et passer une dernière soirée avec la famille. Un moment émouvant pour nous tous. Et puis, environ un an après avoir rendu le tableau qu'il avait tant aimé, Patrick est mort dans son sommeil, de mort subite. De chagrin sans doute, un cœur brisé. Son cœur a lâché en douceur. Quelques années après la restitution du tableau, une expertise a confirmé ce que je pensais secrètement depuis le début, mais que je n'ai jamais voulu dire à Patrick. L'enfant à la bulle de savon n'est pas un Rembrandt. Il fait partie de ces nombreux tableaux peints au XVIIIe siècle, des « à la manière d'eux » avec fausse signature. On ne connaît pas le nom de celui qui l'a peint, mais l'histoire retiendra le nom de celui qui l'a volé par passion. Il s'appelait Patrick Vialanex. Merci.
Je m'appelle Kessie, je suis en 4e au collège Henri Dunant à Meaux. Avec Binta, on est en classe CHAM, c'est une section spécialisée musique et chant. La CHAM, c'est comme une petite famille. D'ailleurs, entre nous, on s'appelle la CHAM Family. On est 40 élèves, 6e, 5e, 4e et 3e mélangés. On travaille ensemble 4 heures par semaine avec Madame Nasr, la professeure de musique. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'année dernière, quand notre CHAM a été sélectionnée pour participer à l'émission de télé qui s'appelle « La meilleure chorale de France » sur France Télé. J'étais choquée. Il y avait seulement 10 chorales sélectionnées dans toute la France et on en faisait partie. La rencontre était en Alsace. On est tous partis en car avec Madame Nasr, notre professeure de musique. On avait préparé « Résiste » de France Gall et une autre musique de Whitney Houston, One Moment in Time, que j'adore aussi. On avait vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. On était les seuls collégiens à participer à l'émission. Il y avait juste un chœur d'enfants qui venait de Bretagne. Sinon, tout le reste, c'était soit des adultes, soit des encore plus vieux. Au moment de monter sur scène, j'étais super stressée par les caméras. On a tout donné sur Résiste, mais les juges nous ont éliminés au premier tour et ont fait gagner des vieux Alsaciens.
Pratiquement tous les CHAM étaient en pleurs. J'étais hyper déçue. Pas tellement parce qu'on avait perdu, plutôt parce que si on était resté dans la compétition, on aurait pu leur montrer comment on chante One Moment in Time de Whitney Houston. C'était une chanson hyper technique, avec un système de chœur à deux voix. On le faisait tellement bien, c'était une dinguerie. Je suis sûre qu'on aurait gagné. Dans le quart du retour, on était dégoûtés. Mais Madame Nastre nous a promis qu'on allait prendre notre revanche. Elle a dit qu'elle avait une idée et qu'on pourrait bientôt chanter sur scène, devant un public exigeant, mais beaucoup plus sympathique. Un truc aussi difficile et technique, qui donne envie d'avoir envie.
C'est tout un art, ce que la culture fait à la vie, premier épisode, une proposition de Delphine Saltel et Sonia Kronlund en partenariat avec la Fondation Art Explora. Une proposition réalisée par Pierre Villers, prise de son Benjamin Vignal, l'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, avec Luce Mourant, et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet. Merci mille fois à Olivier Grondeau, Catherine Canadzi, Sylvie Maton, Binta et Casey, à Alexia Nasre, leur professeur, aux élèves de la CHAM du collège Dunant-Demeaux, à toute l'équipe de ce dit collège Henri Dunant, à Régine Metz, Céline Pestel, Camille Murat, aux équipes de France Culture et à celles de Radio France qui nous ont aidés à réaliser cette soirée exceptionnelle.